Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, ça y est, on y est, c'est la reprise de la saison, premier Grand Prix pour cette année 2025 qui s'annonce totalement folle. On est ravis de lancer vraiment cette saison avec vous, ça fait 2-3 semaines qu'on vous fait des petites présentations, mais là on y est dans le dur, c'est le premier warm-up de la saison sur le tracé de l'Albert Park. Je vous rappelle quand même les enjeux, Max Verstappen vise un cinquième titre consécutif, seul Michael Schumacher l'a fait, classe. Hamilton, 7 fois champion du monde, qui va courir dans l'écurie la plus iconique de l'histoire de la Formule 1 avec la Scuderia Ferrari. Ça aussi, ça va être l'attraction du week-end. 8 line-up de pilotes différentes par rapport à l'an passé. 5 rookies, 3 français avec les débuts d'Isaac Hadjar. On va se régaler. Voilà. Je pense que le teasing, il est court, il est efficace, il est concis. Et on va accueillir les ingénieurs tout de suite. Louis Gerbier, Julien Absalon et Paul Lafitte. Salut les gars.
Salut, salut.
Salut Nico, salut tout le monde.
Salut les gars.
D'ailleurs, Julien et Paul, je vous ai pas posé la question, je l'ai posé à Louis. Saison la plus excitante depuis combien de temps, Jus, celle-là?
Oula, depuis...
Franchement?
Bah, il y a eu, 2021. Mmh. Et, ouais, c'est mais vrai. Le truc, c'est que 2021, on n'était pas sûr, en vrai. C'était pas...
Ouais, mais 2021, tu débutais pas la saison avec cette hype-là, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça s'est créé dans la saison.
Ouais, donc... en vrai, si, il y a eu 2022, mais on a été vite déçus parce que, changement de réglementation, on se disait, ouais, peut-être que ça va être la revanche Verstappen-Hamilton, et en fait, pas du tout.
Ouais, moi, je dirais l'année du titre de Nico Rosberg, quand même, où les deux pilotes Mercedes étaient quand même battus comme des chiffonniers toute la saison pour voir Rosberg l'emporter au dernier Grand Prix. Donc, allez je vais jeter un petit 2016, là, comme ça, pour attaquer ce.
Pas mal. Mais là, on sort quand même d'une saison 2024, 4 équipes qui ont gagné, 7 vainqueurs de Grand Prix différents, on se dit que les écarts vont être encore plus serrés cette saison, ça peut être complètement fou. Bon les gars, on va tout de suite se plonger dans ce premier Grand Prix de la saison, direction l'Australie et Melbourne.
Le paddock RMC.
Par contre, va falloir se lever les copains, je vous rappelle le programme, mes premières séances d'essai cette nuit à 2h30 du matin, séance d'essai numéro 2 aux alentours de 5h du mat, voilà pour les premiers tours de circuit sur l'Albert Park à Melbourne, circuit iconique de la F1 là aussi, ça fait 30 ans que la Formule 1 vient là-bas, ça fait 5 ans qu'on n'a pas débuté en Australie malgré tout, Louis, c'est une destination, l'Australie, voilà, c'est toujours un petit peu à part Melbourne hein, comme circuit.
Ouais, c'est particulier et clairement, en tout cas, pour moi, c'est le premier Grand Prix de l'année en fait. Tu vois, genre quand ça n'avait pas été le cas les dernières années, pour moi, c'était surprenant. Tu vois, de pas commencer une saison là-bas. Je sais que c'est pas du tout le cas dans l'histoire. Il y a eu d'autres Grands Prix qui inauguraient de manière plus ancienne la saison ou quoi. Mais vraiment, moi personnellement, c'est vraiment mon premier Grand Prix et il y a un côté genre la normale est de retour, on retourne à Melbourne pour commencer la saison et on oublie ces fameuses images un peu de fiasco, même si personne n'y pouvait rien, mais de ce fameux cluster chez McLaren et de ces 24-48 heures très bizarres il y a 5-6 ans à Melbourne. Et on est content de retourner là-bas. Et le seul truc que je dirais, c'est que la petite modif de circuit il y a 2-3 ans, là, elle me plaît pas trop, moi, personnellement.
Ouais.
Mais part ça, toi, t'aimes bien ?
Ouais. C'est pas mal, c'est plus dynamique.
Oui, alors c'est vrai, c'est plus dynamique, mais je trouve que c'est au niveau pilotage, du coup, il y a une difficulté en moins. Mais c'est vrai que, comme on sait vers où Liberty Media veut emmener la F1, c'est quelque chose de logique qui a été fait, mais c'est vrai que le petit virage d'avant un peu chiant pour le coup, c'est vrai. Je le trouvais marrant.
La saison dernière, doublé de Ferrari hein, sur le circuit, victoire de Carlos Sainz devant Charles Leclerc, Lando Norris avait complété le podium. Bon les gars, juste avant de rentrer vraiment dans le détail de ce Grand Prix, dans ce qui va faire le sel de cette course, je vais faire un petit tour de table, mais qu'est-ce qui vous intrigue le plus là avant cette première course de la saison? Qu'est-ce que vous attendez tous? Jus, il y a bien évidemment l'attraction Hamilton. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir là ce week-end?
Ah, évidemment, déjà, c'est Hamilton, c'est savoir est-ce qu'il a le rythme. On parle de quand même, il a 40 ans. J'entendais la dernière fois Jean-Luc qui disait bon, au bout d'un moment, c'est un athlète quoi. Donc un sportif à 40 ans, mine de rien, voilà, ça perd en capacité physique. capacité sportive. Donc moi, je veux voir s'il est dans le rythme, comment il est par rapport à Leclerc et comment est tout simplement Ferrari. Et d'ailleurs, en fait, aussi l'autre grande question, c'est effectivement établir un peu la hiérarchie. Donc l'autre grande question, c'est est-ce que McLaren est vraiment devant? Et si oui, si ça se confirme, de combien? Ouais. On parle de 3 dixièmes et c'est vraiment c'est primordial parce que ça peut si c'est un écart vraiment énorme, ça, attention au suspense pour la saison. Même si voilà, ça reste le premier Grand Prix. La saison dernière, à un moment donné, on se disait ah, Red Bull va tout casser, Verstappen il va tout gagner. Bon, finalement, ça s'est pas du tout produit. Mais voilà, moi je veux avoir la réponse pour Hamilton et savoir où est comment est la hiérarchie et McLaren.
C'est vrai qu'on peut avoir notre enthousiasme vite douché. T'imagines là, il y a McLaren qui écrase tout, zéro suspense dans la course, alors qu'on annonce une saison de dingue. Ça peut clairement refroidir tout le monde. Paul, est-ce que toi, tu as des doutes quant à la compétitivité de Lewis Hamilton? C'est vrai, Jules disait, il a 40 ans, attention, son niveau, pour répondre présent sur les 24 courses de l'année, pour s'adapter aussi aux conditions chez Ferrari. Est-ce que tu as des doutes?
Non, aucun doute. On peut se rappeler, il y a deux saisons, lorsque Fernando Alonso, lui aussi, était déjà quarantenaire chez Aston Martin et qu'il trustait les podiums en début de saison. Je pense que la qualité physique du bonhomme, on la connaît tous. Si la monoplace, la Ferrari est au rendez-vous, je pense qu'Hamilton sera devant. Moi, j'ai quand même trois interrogations. La première, comme vous, messieurs, évidemment, de savoir ce que va faire Lewis Hamilton par rapport à Charles Leclerc, qui a déjà fait 6 saisons au sein de la Scuderia Ferrari et qui, lui aussi, truste un titre mondial. Où en sera l'anglais par rapport au monégasque? La deuxième question, c'est de savoir, comme le disait précédemment mon petit camarade de jeu dans le paddock RMC cet après-midi, savoir si Lando Norris, qui est le pilote numéro 1 peut-être cette année encore chez McLaren, aura assez de pression pour justement être devant, car la saison dernière ça a été quand même le principal adversaire de Max Verstappen, et à des moments il a failli face aux Néerlandais. Et puis la troisième question, c'est de savoir si Max Verstappen, avec cette monoplace là, est capable d'aller glaner un cinquième titre mondial, lui qui a quand même écrasé la F1 durant ses 4 dernières saisons, même si la dernière a été quand même un petit peu plus complexe pour le Néerlandais. Voilà les trois interrogations que j'ai sur cette ligne de départ ici en Australie.
Verstappen qui a dit que pour l'instant ils n'étaient pas les plus rapides. Hein. Il l'a redit là juste avant le Grand Prix.
Mais il a, dédramatisé. Hein. J'ai vu. Ouais. Après, normal aussi. Hein. Pas envie de se mettre de la pression ou de créer des attentes ou autre.
Après, de toute manière, tu sais qu'avant de démarrer une saison, il y a toujours ce jeu d'intox.
C'est ça.
On a tout de suite vu Ferrari, Mercedes et Red Bull mettre sur McLaren le statut de grand favori. Voilà. Et derrière, t'as Lando Norris qui dit non, mais je crois qu'on ne se voit vraiment pas plus beau que les autres. Quoi. Donc on n'est vraiment pas sûr d'être plus rapide que tout le monde. Donc il y a vraiment de l'intox là avant les premiers tours de circuit. C'est plutôt logique. On va écouter Fred Vasseur, les gars, sur Lewis Hamilton, sur la dynamique chez Ferrari depuis que Lewis Hamilton est arrivé, et surtout sur son état d'esprit. Parce que c'est vrai que nous, on a vu des images, beaucoup. On a vu cette énergie retrouvée. Et Fred Vasseur, il en a parlé chez Marion Bartoli dans Bartoli Time le week-end dernier. D'ailleurs, vous pouvez vous réécouter le podcast. C'était une longue interview. Et il a parlé de ça. Et on sent que c'est plutôt positif quand même pour démarrer la saison. Écoutez-le.
Il est arrivé ici après deux saisons assez compliquées chez Mercedes. Lewis, c'est quelqu'un d'assez sensible. Hein. Les deux dernières années un peu difficiles. L'année dernière, avec des relations un peu compliquées avec Toto aussi, je pense que ça l'a énormément affecté et marqué. Et il arrive aujourd'hui avec une énergie qui est l'énergie d'un rookie un peu là. Donc, d'ailleurs, c'était assez touchant à voir, parce que même s'il arrive avec son palmarès, ses résultats, ses records dans tous les sens, il a eu parfois la naïveté, mais l'envie de découvrir d'un jeune pilote.
Voilà. Bon, ça confirme, Louis, ce qu'on disait dans le paddock, mais quand ça vient de Fred Vasseur, tu te dis quand même. En plus, c'est pas quelqu'un, Fred Vasseur, qui fait de la langue de bois, c'est-à-dire que quand il répond, en général, il répond, quoi, sinon il dit rien. Mais ça confirme quand même ce qu'on voit. Oui, il va y avoir une période d'adaptation. Ça, c'est une certitude. Par contre, le gars, il a une énergie dingue et il a vraiment envie de réussir son pari, quoi.
Ouais, exactement. Moi, je trouve que Hamilton, il y a un côté rêve d'enfant. Il retrouve un truc. Je pense qu'au fond, D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Norris récemment, je crois que c'est dans Drive to Survive, où il dit « moi, je suis très bien à McLaren ». On lui pose la question si un jour il peut partir quelque part. Il dit « de toute façon, il y en a une où on a tous envie d'aller ». Enfin, tu vois, il la cite pas.
La prestigieuse.
Ouais, voilà. Et donc, en fait, il sous-entend que… Et donc, je pense que Hamilton, c'était pareil. Et donc, du coup, je trouve qu'à 40 ans, bah, je pense que c'est sûrement parce que ça vient… de très profond et peut-être de l'enfance qu'il retrouve, il retrouve toute cette fraîcheur pour cette nouvelle aventure et puis il fait tout bien dans la com là, il a appelé Charles monsieur Ferrari. Pour l'instant il y a pas de pépin et comme tu le dis Vasseur il a confiance. Vasseur il a ses deux poulains hein. C'était son poulain à l'époque, il raconte cette fameuse anecdote où il va le chercher à la gare au fin fond de la France un jour Hamilton quand il a je sais plus 14 ou 16 ans. Là, Charles Leclerc, il l'a pris sous son aile depuis Sauber. Donc, il y a un petit côté, tu sais, le vieux rat et les tortues ninja. Là,
tu vois, Maître Splinter.
Maître Splinter, merci.
Bien sûr.
Et tu vois, il y a un peu de ça, quoi. Genre, il a ses jeunes padawans, tu vois, et il va les envoyer et ça va être magnifique. Et moi, je crois aussi que la mayonnaise va prendre.
Et ce qui est encourageant pour Hamilton, c'est que l'année dernière, parce que franchement, par un moment donné, on pensait qu'il était un peu triste, qu'il avait plus très envie de piloter. Et ce qui a vraiment fait du bien, c'est quand même les deux victoires. Alors surtout une, celle à Silverstone, parce que l'autre en Belgique, bon, c'est très bien, il fait deuxième, mais du coup, il a la victoire après coup parce que Russell est disqualifié, si je ne me bêtise. Donc c'est ça, ces deux victoires là. Permettre de dire ok il en a encore, il a encore envie et il s'est encore piloté tout simplement, en tout cas vite, et c'est ça qui est très encourageant pour lui, pour Ferrari, pour tout le monde, parce qu'au moins les ingénieurs, Fred Vasseur, tout le monde peut se dire ok, on peut y croire, on peut se dire il va bien interpréter ce qu'on lui propose, quoi.
Question les gars, vous êtes team principal de Ferrari là, vous devez dégager une hiérarchie, on met qui en pilote numéro 1?
Alors, c'est jeu égal jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la piste ou un écart qui se crée au classement.
Pareil, tu peux pas à la veille de Melbourne dire l'un ou l'autre, moi je te dis.
C'est clair, on peut pas dire Lewis Hamilton numéro 1 devant Charles Leclerc, ce serait déjà désavouer le pilote monégasque qui est quand même le protégé de la Scuderia. Et puis comme le dit Louis, Julien, enfin je veux dire, avant le premier Grand Prix, si déjà Hamilton avait une étiquette de numéro 1, ça serait déjà compliqué pour Charles Leclerc, donc vraiment du 50-50 évidemment pour démarrer
d'accord.
Cette nouvelle saison.
Je suis d'accord les gars, mais il y a quand même un moment où le palmarès du mec plaide aussi peut-être un peu en sa faveur.
Non, pas en début de saison Nico, pas en début de saison, pas en début de saison, c'est pas
il est pas arrivé
possible.
L'année dernière,
surtout
Charles, il a 5-6 ans de Scuderia maintenant.
6 ans. Ouais, 6 ans de Scuderia, bien sûr.
Et justement, ce qui plaît dans sa c'est déjà pris en considération, je trouve, c'est que comme c'est un septuple champion du monde,
il y a déjà match alors que
voilà, c'est
exactement.
Alors que normalement, on pourrait se dire bah voilà, 40 ans, ça y est, tu fais plus grand-chose depuis Abu Dhabi, bon bah place aux jeunes, t'es là pour encadrer Leclerc. Ouais. Et non, en fait, jeu égal, voilà, grâce au palmarès.
Bon, on va voir si vous seriez de bons boss d'écurie, en tout cas pour Ferrari. Ouais, j'en doutais avant vos réponses, mais vous allez voir, vous êtes plutôt pas mal. Écoutez Fred Vasseur.
Je suis un grand fan de ce que les Anglais appellent Let Them Race, que je pense que on est là pour faire de la course, on est là pour avoir des résultats, que la bagarre, tant qu'elle est maintenue, intelligente et contenue entre les pilotes d'une même équipe, c'est la meilleure façon d'avoir une émulation et une émulation positive et d'obtenir de la performance. Donc je veux garder ce côté compétition dans l'équipe, ça c'est important. Honnêtement, je suis pas du tout inquiet, je suis très serein là-dessus. Ils ont vraiment montré un respect mutuel et là où je suis serein, c'est que souvent, je n'ai pas eu à discuter trop, moi, ils discutaient entre eux et c'est assez rare. Ça.
Ouais. Ah, il nous fait plaisir là quand même. Là.
Et tu vois, on pourrait imaginer que c'est une argumentation un peu justement langue de bois, parce que c'est une réponse finalement qui arrange bien de dire qu'il n'y a pas, y a pas de numéro 1 ou voilà. Mais en même temps, là où on peut croire Fred Vasseur quand il nous dit ça, c'est avec depuis son arrivée à la Scuderia, Let Them Race entre Charles et Carlos. Clairement, on l'a vu. Il y a eu des courses où on se disait, s'agirait peut-être de prendre les ordres et de dire on reste 1 et 2 ou quoi. Et finalement, ils se sont battus, ils ont en course quand même, ils ont été assez libres pour des coéquipiers, quoi. J'ai connu des équipes être beaucoup plus strictes avec leurs pilotes en course, quoi, et en piste.
Mais moi, il y a un truc quand même qui. Alors, dans la suite de l'interview, il dit que bien évidemment, s'il y a un pilote qui prend le lead, qui est en capacité de jouer quelque chose et que l'autre est à la ramasse, bien sûr que le deuxième pilote se mettra au service de celui qui peut obtenir quelque chose. Mais et tu sens déjà qu'ils ont travaillé sur plein de scénarios différents. Et c'est ce qu'il disait Fred Vasseur. Il dit de toute manière, on a anticipé plein de choses et on en a discuté ensemble. Donc tu sens déjà, Jus, que bah, c'est sain. Ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de non-dit, tu vois, il n'y a pas de tabou. Toutes les possibilités ont été explorées, les pilotes en ont parlé entre eux, il y a eu des réunions avec les ingénieurs, le team principal. Voilà, c'est carré pour débuter cette saison.
Tout à fait, c'est la force de Fred Vasseur. Il a été recruté pour ça, pour que tout soit carré. Et il le fait très bien depuis un moment. Après aussi, j'ai envie de dire encore heureux parce que bah, ça fait un an qu'on sait que Lewis Hamilton va débarquer. Donc oui, il fallait préparer. Aussi par rapport à ce qu'il a fait la saison passée, par rapport au résultat de Ferrari et de Leclerc. Après, il y a quand même aussi un petit avantage a priori, hein, parce que réponse aussi à Melbourne. Mais le petit avantage pour Vasseur et pour Ferrari, c'est quand même que semblerait que Ferrari ne soit pas numéro 1 en monoplace, en performance. Donc, c'est quand même plus facile de dire, bon, on les laisse courir parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est prendre un maximum de points. Et ils sont, comme la voiture n'est pas au top, enfin, elle est très bien, mais ce n'est pas McLaren, semble-t-il. T'es pas en train de jouer le championnat pilote immédiatement.
T'as moins de ouais c'est ça.
Donc moins de rivalité entre les entre.
Tu as moins besoin de choisir ton poisson pilote parce que finalement tant que tu mets des points.
Tu peux engranger les points.
Voilà. Ouais, ça c'est clair.
Messieurs, l'objectif c'est quand même de gagner. Hein.
Ah bien
même
sûr.
Si, Ferrari est peut-être pas la meilleure force du plateau quoique. Hein, faudra quand même voir au niveau des perfos en Australie. Le but c'est quand même de gagner. Alors se mettre au moins de pression je veux bien, mais au final. Vasseur et Hamilton et Leclerc ne veulent qu'une seule chose, hein, c'est le titre pilote à la fin de la saison.
Non, c'est sûr, mais il y a une réalité
pas,
qui fait
hein,
que.
Ouais,
il y a une réalité qui fait que bah, si tu ne peux pas être premier, bah, en fait, tu joues deuxième, troisième, et ça, bon, ouais. Je pense que, ok, ils ont envie d'être voilà, le plus haut possible, les pilotes, mais ce n'est quand même pas pareil que de jouer la gagne, donc il y a moins de. C'est pas qu'il y a moins de pression, mais il y a moins de chances de conflits sur la piste, on va dire.
Ouais. Il y a quand même une donnée, c'est que Charles Leclerc n'a jamais été aussi fort. Hein. 8 victoires pour lui en F1. Il n'a plus vraiment de points faibles. Quoi. Alors il y a eu cette période de creux, mais c'était à l'image de l'écurie l'été dernier. Non
là, moi j'attends encore de voir sur la régularité.
Toi, je trouve très fort en qualif.
Oui, ça oui. Ouais. Mais j'attends de voir sur la régularité en course, sur le fait de ne pas faire d'erreurs bêtes. Et aussi sur la dégradation des pneus.
Est-ce que vous pensez que aussi que vas-y Paul.
Il faut quand même se rappeler quand même que Charles Leclerc c'est à quelques reprises, j'allais dire plusieurs reprises, pris les pieds dans le tapis quand même. Alors c'est vrai qu'en qualif ça a toujours été très très bien. Julien a évoqué la dégradation des pneus, des courses quand même où il était censé être devant Carlos Sainz et quand même l'Espagnol lui a tenu quand même la dragée haute. Donc je suis un fan de ce pilote là, il a toutes les qualités. Sur le papier, il faut voir sur la piste. Il a encore, je crois, quelque chose à prouver au monde de la Formule 1 aujourd'hui, malgré ses 8 victoires.
Il y a Fred Vasseur qui a coupé ta ligne pendant 5 secondes. Quoi. Il y a Fred Vasseur qui n'était pas content de ce que tu disais. Il a coupé ta ligne, on t'a perdu, mais on a compris ce que tu voulais dire. Ouais. Non, mais je comprends
ce
que
gars,
tu.
C'est moi qui suis allé en régie couper, c'est hors de question de parler comme ça de Charles.
T'as ressorti ta casquette, tu t'es dit c'est pas possible.
Oh, il y a un acharnement.
Qu'est-ce qui se passe là?
Non, je suis un grand fan de Charles Leclerc, messieurs. Hein, donc,
non, mais bien évidemment, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a forcément des doutes parce que la saison pleine, on l'attend. Et c'est vrai que sur la régularité, sur l'ensemble d'une saison, je suis d'accord avec vous, les gars. Mine de rien, il met quand même des choses en place. Alors, ok, l'année dernière, c'était pas encore une année totalement pleine, mais tu as vraiment la sensation qu'il progresse quand même, qu'il progresse de Grand Prix en Grand Prix, qu'il arrive à assumer son statut. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut se faire manger, bouffer par Hamilton et par tout ce qu'il dégage aussi. Il y a le côté médiatique, mais sur la piste aussi. Ça va peut-être être plus difficile d'aller mettre un grand dépassement à Hamilton qu'à Carlos Sainz. Voilà, ça aussi, ça peut peser, Julien.
Ouais, ça peut peser. J'ai pas de réponse arrêtée sur ça parce que je me dis à la fois, il grandit, il prend de l'expérience. Clairement, demain, si on me dit il est champion du monde, je serais pas surpris. Mais je sais pas, je me dis, il y a eu quelques petites des désaccords, des accroches avec Sainz qui font que et des erreurs de sa part aussi. ou aussi il y a le côté quand par exemple il fait une erreur et qu'il a un peu cette tendance à se flageller devant les médias.
Ouais. À s'en mettre beaucoup trop d'ailleurs.
C'est ça, à se mettre parce que finalement, ouais, c'est ça, trop de pression sur lui-même. Moi, je sais pas, je me dis, si ça tourne entre guillemets mal, ou par exemple, je sais pas, 5-0 sur le début de saison pour Hamilton, et ben.
Ouais. Moi je pense que pour.
Je le vois pas le 5-0 quand même. Mais
moi non plus.
Pour continuer par rapport à ce que dit Julien, je suis assez d'accord. Je pense que. S'il doit faire, tu vois, justement, le gros dépassement, le truc un peu osé ou quoi, il faut le faire très tôt dans la saison, quand tu es justement encore Monsieur Ferrari pour Hamilton et pour un peu, justement, mettre, tu vois, marquer ton territoire
ça,
un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tu te laisses un peu endormir par cette frénésie, l'arrivée d'Hamilton et tout, toutes les caméras braquées, et que toi, tu fais un début de saison un peu neutre, tout de suite... C'est pas forcément Hamilton te bouffera peut-être pas forcément dans tout le temps sur les dixièmes, sur les temps de chrono, mais comme tu dis, toute cette aura, tout ce truc autour de lui, toute cette envie limite que tous les fans ont que ça marche avec lui, ça peut faire du mal à Charles.
Et
clairement,
puis,
clairement.
Les médias diront, mais attendez, genre ok, Hamilton il est septuple champion du monde, mais Leclerc il est chez Ferrari depuis 6 ans, voilà. La voiture il l'a développée là l'année dernière, comment ça il fait une saison neutre où il se fait dominer par Hamilton qui découvre la voiture
et qui était, pas, qui était plus très bon depuis 2 ans, voilà. Tu vois, tu peux même aller jusque là, et donc ouais non mais clairement c'est pour ça il faut se grouiller d'être bon en gros.
Lewis a dit c'est probablement la saison la plus excitante, la période la plus excitante de ma vie. Bon, bien évidemment il va pas dire le contraire, hein, mais il l'a dit, et c'est vrai qu'on le sent là dans toutes les interviews, on l'a vu aujourd'hui, là c'était la journée média à Melbourne, ultra souriant, il fait des interviews avec les petits jeunes, totalement badé par Antonelli, totalement badé par Isaac Hadjar. On l'entendra Isaac tout à l'heure. Mais on va l'entendre, mais c'est assez dingue. Fred Vasseur disait quelque chose aussi. Il disait que les images de l'arrivée d'Hamilton à Maranello, ça a été vu plus d'un milliard de fois, les gars, sur les réseaux sociaux Ferrari. Mais c'est pour...
Ferrari, voilà, écurie ultra prestigieuse, et Hamilton, star planétaire qui a clairement dépassé le monde de la Formule 1. Pas partout dans le monde, mais en tout cas, il y a quand même... Il y a plein d'endroits où voilà, on va dans la rue, on dit « Vous connaissez Lewis Hamilton ?» Oui.
Mais je pense qu'on n'a pas vécu ça, messieurs, depuis que Ayrton Senna avait quitté Lotus pour arriver chez
c'est
chez
ce que j'allais dire.
On peut comparer ces deux pilotes qui sont des géants de la Formule 1. Et c'est vrai qu'on n'a pas vécu ça, nous, depuis Ayrton Senna. Enfin, même quand Prost avait quitté McLaren pour aller chez Ferrari, c'était déjà à l'époque quand même quelque chose de voir le Français champion du monde aller à la Scuderia. Là, de voir Hamilton, on ne parle que de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on attaque ce podcast en évoquant peut-être la rivalité à venir entre Leclerc et Hamilton. Et on a envie, même si on adore Charles Leclerc, on a envie de voir Lewis Hamilton... aller gagner des grands prix et comme le rappelait Louis, c'est vrai que il sort quand même d'une longue traversée du désert, hein, quand même depuis ce titre perdu en 2021. Bon, cette victoire à Silverstone l'a remis un petit peu sur le devant de la scène, mais c'est vrai que Hamilton a tout à prouver aujourd'hui malgré ces 7 titres mondiaux et ce palmarès impressionnant dans une nouvelle écurie. Donc c'est vrai qu'il y a de l'excitation, on est tous dans les starting blocks à attendre ça, mais je pense qu'on n'a pas vécu ça depuis vraiment très 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 longtemps.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que nous, enfin moi j'ai la trentaine, comme beaucoup d'auditeurs et tout ça, moi je ne l'ai jamais vécu ça, une saison comme ça, une hype comme ça, un mec qui arrive avec une telle aura sur le paddock aussi, ce côté iconique, on en parlait, un septuple champion du monde avec Ferrari, c'est un truc que nous on n'a pas vécu, les plus anciens l'ont vécu avec Ayrton Senna, mais nous clairement ça rend cette saison complètement dingue. Pendant ce temps là il y a McLaren qui fait son petit bout de chemin, j'ai envie de vous dire, il y a eu des petites déclats de Lando Norris, je vous en parlais, qui fait un peu le dos rond, quoi, hein, qui sort pas du bois, quoi, qui dit qu'il est excité, relâché. Louis dit qu'il a bien bossé, il dit qu'il a bien appris de la saison dernière. Et ça, c'est quand même. Alors, on verra comment ça se passe sur la piste, mais on sent quand même que cette fin de saison terrible, le coup sur le casque qu'il a pris, notamment lors du Grand Prix du Brésil, là, ça l'a fait vraiment mûrir et qu'il a vécu peut-être 2 ou 3 saisons en une.
Ouais, je veux bien croire qu'il ait beaucoup appris sur cette saison. C'était clairement un peu la première fois qu'il se retrouvait dans une voiture qui pouvait clairement faire de grandes choses. À sa décharge, la voiture était vraiment au niveau un peu trop tard pour prendre des points en début de saison. Je pense que c'est aussi là que ça se joue. Mais c'est clair qu'au moment où ils avaient la meilleure voiture, il a fait des erreurs qu'il ne faudra pas refaire si un jour il veut avoir le titre. En plus, chaque année qui passe, il a aussi son coéquipier qui prend de l'expérience et qui a beaucoup de talent. Donc il faut peut-être aussi se dépêcher s'il veut en attraper
un. Qui a prolongé d'ailleurs.
Ouais, s'il veut en attraper un lui avant que peut-être se faire battre par Piastri, on ne sait pas. Parce que Piastri est quand même vraiment plus jeune, donc il a peut-être une marge de progression aujourd'hui supérieure à celle de Lando. Donc oui, il faut. J'espère qu'il a appris. Moi, mais en tout cas, je crois complètement dans les paris, dans les pronos la semaine dernière. J'ai dit champion du monde, allez Lando, et une semaine après, je continue. Et puis dimanche, ouais, quand il aura fait cinquième, je dirais l'inverse lundi. Puis voilà.
Avec les caractéristiques de l'Albert Park, là, bon, on n'a pas beaucoup d'infos sur les monoplaces quand même, mais malgré tout, avec ce qu'on sait un petit peu, qui tu vois tirer son épingle du jeu sur ce circuit? Est-ce que tu vois des surprises? C'est vrai qu'on annonce Williams très bien aussi sur ce début de saison. Ouais. Avec les caractéristiques de Melbourne, qu'est-ce que tu vois toi pour la course?
J'ai quand même tendance à penser que ce sera pour McLaren. En fait, moi, j'ai vu les chiffres. C'est toujours pareil, c'est de l'analyse et de l'interprétation. Mais quand on parle de 3 dixièmes, moi, je trouve ça énorme.
Surtout quand tu vois les écarts la semaine dernière et tout ça, 3 dixièmes, c'est vraiment conséquent.
C'est qu'en fin de réglementation, quand un dixième, ça peut te faire perdre 3 ou 4 places, 3.
Il y a des écuries qui cachent des choses, mais McLaren aussi cache des trucs. Ils cachaient le truc, enfin les freins avant, là, j'ai vu. En fait, ils ont un circuit d'air qu'ils n'avaient pas encore montré. Donc, il y a encore peut-être des surprises sur les performances. Je vois quand même McLaren. Et attention à Mercedes aussi. Apparemment, Mercedes est bien, mais c'est difficile à lire. Hein. Mais par contre, le gros truc, c'est la météo. La météo, samedi, enfin pour les qualifs, il peut pleuvoir un peu, mais il fait quand même chaud. Et par contre, dimanche, c'est gros risque de pluie avec les températures qui baissent. Et là, par contre, je ne sais pas du tout si McLaren va avoir un souci sur les températures de pneus, si Ferrari va être incroyable à ce niveau-là. Ouais, donc,
s'il fait froid, c'est pour Mercedes. En tout cas, quand il faisait froid en fin de saison dernière, c'était pour Mercedes. Ils ne savaient pas pourquoi, mais c'était pour eux.
Et Alpine aimait bien aussi, je crois, le froid.
Ouais.
Parce que le froid, la pluie, c'est au Brésil, ils sont et tout ça roule pas mal.
Et Verstappen aussi. Verstappen est comme un.
Oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon, après, il arrive à faire gagner des dixièmes à des voitures moins bonnes. Donc,
Mais moi, je mettrais bien une pièce sur Max Verstappen, quand même, messieurs. Vraiment. Lui qui a déjà gagné en Australie, en plus les conditions sont peut-être pas au rendez-vous au niveau de la météo, donc pourquoi pas aller grappiller quelques dixièmes. Julien invoquait ses 3 dixièmes à l'avantage des McLaren. Alors sur une piste sèche, évidemment on n'en parle pas, mais enfin, si les conditions sont un petit peu difficiles, piégeuses, Max pourrait certainement, à n'en pas douter, tirer son épingle du jeu.
Tiens, on n'a pas parlé des. Parce que même si on est en fin de réglementation, il y a quand même des petites évolutions dans le règlement cette saison, Jus. Déjà, il n'y a plus de points pour le meilleur tour en course.
Ouais, ça c'est. Tant mieux. Genre, je trouve ça pas mal le point du meilleur tour. Et en fait, on s'est rendu compte que ça récompensait pas vraiment le pilotage. Ça récompensait, les circonstances ont fait que j'ai un arrêt gratuit. Bon, bah allez, je prends le point. Ou alors, c'est pour empêcher une écurie. Voilà. De récupérer ce point bonus, et du coup ça rend des trucs absurdes où avant dernier tour machin met les pneus tendres, mais non, en fait c'est le dernier qui passe aussi. Bon,
je suis pilote numéro 2 au milieu du plateau, j'ai raté ma course, mais mon leader a besoin que j'arrache un point à un gars, j'ai rien à voir là-dedans, et je rentre. Ouais, c'est vrai, moi au début je trouvais ça vraiment stylé, mais c'est vrai que malheureusement en pratique on a vu que après normal, hein, une règle, surtout en F1, les ingénieurs ils savent faire que ça, c'est d'aller à la limite de la règle. C'est la règle, il n'y a pas de souci, mais du coup, ça dévoyait le sens premier du meilleur tour. Quoi.
Et puis même si c'est que du plus 1 moins 1, ça, on perdait en lisibilité en fin de saison sur les classements, parce qu'on se disait, oui, du coup, est-ce qu'il peut être champion, mais s'il y a le meilleur tour, c'est un peu. Tant mieux, on simplifie la chose, c'était pas indispensable.
La grosse nouvelle règle, en fait, c'est sur les ailerons, Julien. Tu me dis si je me trompe, mais c'est ça un peu la grosse évolution de cette année 2025.
Notamment, pour l'aileron arrière. En fait, il y a tout ce. Même d'ailleurs, l'aileron avant, mais c'est tout ce qui est flexibilité. On ne veut pas trop qu'on vérifie ça quand même. Et puis surtout, l'aileron arrière. Alors, ils avaient quand même déjà serré la vis l'an dernier sur l'histoire de DRS. Parce que, en fait, l'aileron arrière, c'était. C'est d'ailleurs découvert grâce en vrai à Twitter, un internaute qui a mis l'accent sur ça à Bakou, parce qu'on constatait, il n'y a pas de DRS et pourtant l'aileron arrière, ça s'ouvre. Et forcément, un gain de performance de kilomètre-heure assez significatif. Et bizarrement, dès que la FIA a dit attendez, c'est bizarre, McLaren était un peu plus dans le dur. Mmh. Donc là, ils vont vraiment faire attention. C'est la nouveauté, le changement majeur. Mais bon, c'est une sorte de continuité. C'est pas.
Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de bouleversement. Mais bon, voilà, il y a 2-3 modifs, comme avant chaque année. Les gars, on va parler des Français aussi. On en a un peu parlé dans notre podcast de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous voulez réécouter le podcast, on a fait un peu tous nos pronos avant le début de la saison, les forces en présence, qui on voit comme surprise, un petit peu les pronos de Zinzin aussi. Bon, le prono de Zinzin, c'est surtout quand est-ce que va arriver Franco Colapinto en Formule 1, on l'avoue. Mais allez réécouter le podcast, il est bien évidemment dispo. Paul, on va écouter Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly, ouais, on le sent épanoui comme jamais, et après on en débat, parce qu'on a la sensation que... Nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'Alpine, c'est un peu catastrophique, tout ce qu'ils ont renvoyé en termes d'image. Mais en interne, quand j'ai entendu le son de Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal, il n'a pas du tout cette lecture-là et c'est super intéressant. Écoutons-le.
Je pense que depuis que je suis arrivé chez Alpine, c'est très clairement le meilleur esprit ou le meilleur environnement que j'ai pu avoir depuis mon arrivée dans l'équipe. Et il y a beaucoup de changements positifs, on va dire, au sein même de l'équipe, que ça soit en termes de structure, en termes de process, en termes de staff, de mentalité. Il y a beaucoup de bonnes choses, bien sûr, que j'ai pu voir pendant la saison l'année dernière, mais il y a toujours toujours cette dynamique positive, et j'espère que, je sais qu'on est dans des bien meilleures bases que l'année dernière, et j'espère qu'on va pouvoir le confirmer sur ce début de saison.
Voilà à quoi on doit s'attendre avec Alpine, finalement. Est-ce qu'on reste sur la dynamique de la fin de saison ? Est-ce que tu y crois vraiment cette année ? Ouais. Ou attention, parce qu'avec tout ce qui se passe là-bas, tout peut changer très vite.
Ouais, alors pas de langue de bois de la part de Pierre Gasly, mais quand on se rappelle l'année dernière quand même où ils étaient en début de saison, en fond de grille, et la progression et les courses qu'a fait, et les qualifs qu'a notamment fait Pierre Gasly durant le dernier tiers de la saison, on peut s'attendre à ce que cette équipe continue de progresser et d'être encore une fois la meilleure équipe du reste du monde, se situer pourquoi pas à la cinquième place du classement des constructeurs. On a envie d'y croire. Pierre Gasly est un des pilotes les plus rapides du plateau, avec une Alpine, j'ai envie de croire, qui va continuer peut-être de progresser un petit peu. Ouais, j'ai envie de la voir en milieu de plateau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais
cette ouais, vous attendez Formule à quoi, vous, les gars même... On attend quoi d'Alpine?
On est plein d'espoir, parce que ouais, quand tu penses à l'année dernière et qu'on à chaque fois qu'on parle d'Alpine, on en revient à leur ganache à la présentation il y a un an, où ils faisaient des têtes de 6 pieds de long.
Ils savaient.
Et voilà, ils savaient. Et qu'en interview, vraiment, tu sentais que chaque mot était pesé pour ne pas dire qu'ils allaient partir avec un tracteur. Et là, si tu veux, rien que dans les attitudes, dans les déclarations... Moi, l'interview de Pierre, là, je la trouve assez folle, en fait. Vous voyez l'optimisme qui ressort de cette interview, ouais, quand on connaît la prudence... dans la communication qu'il y a eu depuis un an, où chaque demi-dixième, on disait non, mais on travaille bien, machin et tout, parce qu'en fait, on partait d'une. C'était un état catastrophique il y a un an, quoi. Et donc, en fait, je trouve que 12 mois après avoir une voiture qui laisse autant d'espoir à son pilote numéro 1, mais c'est presque miraculeux, en fait. Je veux pas en faire trop, mais quand même, les gars, ils étaient
au vu de la deuxième partie de la saison. Quand même.
Voilà, évidemment, mais on connaît aussi Alpine et on sait que parfois ils étaient capables de nous faire pire en un hiver que la voiture d'avant, quoi. Donc, moi, je suis quand même vraiment, vraiment hyper excité de voir ça, et j'espère, comme le dit Pierre, qu'il pense être dans le millefield, et après il sait pas où exactement, et qu'il espère que ça sera plus en haut, et il veut marquer des points dès ce week-end. Quand on se rappelle le résultat du premier Grand Prix de l'année dernière pour les Alpines, moi je trouve ça formidable. Moi ça me remet un gaz monstre pour suivre l'écurie.
Attention les gars, attention.
Ah non, mais il y a la chaufferie, oui, il y a la chaufferie.
Flavio, il peut tout faire péter très vite. Ouais. Alors lui c'est une chaudière, je peux vous le dire. Gasly il est en fin de contrat, mine de rien. Il y a la grosse interrogation autour du deuxième pilote, Jack Doohan. Je pense que là faut qu'il profite. Il est à domicile là à Melbourne. Il faut vraiment qu'il kiffe l'ambiance.
Bah, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs.
Il l'a dit. Mais franchement, il est très drôle. Hein. Il est très drôle. Il a du second degré. Il dit j'en profite parce que bon, ouais, tu vois, trois petits points bien, de suspension.
Hein.
Quoi.
Là, pour le coup, il n'y a aucun suspense. Hein. C'est, ouais. Normalement, c'est quoi? Dans 5 grands prix, c'est Colapinto. Les sponsors sont déjà là. Donc, bon, les sponsors argentins, ils n'ont pas payé pour un pilote réserve.
Ça, c'est clair. Mais voilà, non, mais il y a Flavio qui peut mettre un peu le fuego aussi et qui peut aussi faire basculer pas mal de choses.
Mais c'est vrai que pour l'instant, le plus important, c'est la performance. Et là, ils ont l'air d'être vraiment débarrassés de leur problème de poids de la voiture. C'était déjà un peu le cas, effectivement, en fin de saison passée. Et s'il parle autant Pierre Gasly de cette façon, en fait, le truc, c'est que les analyses, voilà, toujours pareil, prendre avec des pincettes, mais. Les analyses confirment que la voiture va beaucoup mieux et que c'est peut-être la meilleure des autres. Donc, c'est-à-dire.
Et puis il y a aussi apparemment cette année, ils auraient réglé enfin un problème de cohérence avec la soufflerie. Apparemment, il y avait eu des soucis en fait où, si tu veux, ils testaient des trucs la semaine et le week-end ils les mettaient en place et ça ne marchait pas du tout comme il fallait. Et apparemment, ça venait, de la soufflerie. Qu'en fait, maintenant, apparemment, quand ils testent quelque chose dedans. C'est cohérent le week-end suivant et du coup ouais, comme tu dis, c'est quand même permet mieux. D'avancer sereinement quand tu fais une bagnole quoi.
Ouais. Pierre Gasly qui va retrouver son meilleur ennemi, ami, rival, Esteban Ocon, qui a désormais pris le poste de pilote numéro 1 chez Haas. On va écouter Esteban Ocon qui lui aussi doit s'adapter à plein de choses, un peu comme Lewis Hamilton chez Ferrari, il découvre plein de trucs, Esteban.
Il y a des énormes différences en fait entre les équipes. Les choses fondamentales sont là, on a les mêmes outils, mais les mêmes outils peuvent s'appeler complètement autrement et peuvent s'utiliser complètement d'une autre façon aussi. Donc il faut vraiment essayer de se recaler à la façon dont l'équipe travaille, à la façon dont l'équipe communique. Et quand il y a des choses en fait qui fonctionnent pas, où vraiment on peut pas se caler, bah alors là c'est là où il faut commencer à travailler pour changer en fait les choses qui ne colleront pas, même si on essaie de mettre toute l'énergie qu'on peut pour essayer de résoudre le problème. Donc c'est là où le gros du travail est fait depuis Abu Dhabi, depuis 3-4 mois. Mais pour l'instant, je pense qu'on s'est plutôt bien préparé et je suis content d'arriver. Bah maintenant où j'en suis avec l'équipe.
Moi, Julien, cette équipe, moi, As, mais... Sam. C'est l'écurie qui me hype.
Ah ouais?
De quoi?
C'est pas clair comme Donald Roche le
ouais,
discours.
Alors après, c'est sûr que voilà, on choisit les extraits, etc. Il parle beaucoup en ce moment dans les médias. Donc bon, mais là, quand même, je trouve que ça n'inspire pas confiance.
Oui.
Mais il met un peu l'accent sur ah oui, il faut s'adapter, c'est difficile, machin. Moi, je sais pas. Hein, après, bon, le truc, c'est qu'on est sur une convergence des performances vu que c'est la fin de la réglementation. Donc, même si, admettons, As recule dans la hiérarchie, si ça se trouve, c'est pour, on parle de centièmes de seconde. Donc, c'est pas dit que ce sera en fond de grille, c'est pas ce que je veux dire. Mais je suis pas emballé par cette déclaration d'Ocon et en plus, là, le truc, c'est Birman, c'est un peu l'autre petite star de quand même.
Pareil, tout le monde est en numéro 1, mais il faut se dépêcher de le montrer parce que l'autre derrière, après, ça peut vite.
Il y a un côté un peu Norris Piastri, même si évidemment Ocon est beaucoup plus expérimenté. Hein,
ça, oui, voilà. C'est quelques similitudes.
Ouais, alors ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Après, le son, comme tu l'as dit, moi je pense qu'il faut plus le voir en mode son adaptation à lui, plus que tu vois ce qui se passe dans l'écurie. C'est plus ça. Parce que mine de rien, Esteban Ocon, c'est 5 ans chez Alpine, dans le groupe Renault. Et Paul, il le disait, Esteban Ocon aussi, il disait qu'il a voulu faire des modifs sur son volant. Et en gros, il a mis un gros tir à Alpine. Il a dit bon, ce qui m'aurait pris 9 mois avant, ça a été fait en un mois et demi là. Donc, il y a des messages qui sont passés quand même.
Par contre, ce qui est
pas
clair,
de l'aigreur, mais voilà.
Ouais, c'est sûr. Par contre, là où tu as raison, c'est que en fait, si la voiture fonctionne, eh ben le duo Ocon-Berman, c'est quand même ça. Par contre, c'est quand même stylé et on a envie de voir ce que ça peut donner. Mais bon, je sais pas.
Ça, c'est ma petite line-up.
Ça a de la gueule, ouais. Sur le papier, ça a de la gueule. Et on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si Ocon sera au niveau de Berman. On se rappelle de ses débuts chez Ferrari, chez Haas également. Il a marqué des points. On parlait de la rivalité déjà naissante entre Hamilton et Charles Leclerc. Ouais, sur le papier, ça. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne quand même.
Je trouve que. Attention, parce que Esteban Ocon, il est toujours ce côté. Mais bon, Il a quand même fait des trucs, vainqueur en Grand Prix. L'an dernier, on lui a filé une 4L pour terminer la saison. Il n'avait aucune évolution. Et malgré tout, au Brésil, c'est quand même lui qui arrive à terminer deux devant Gasly. Toujours un pilote un peu sous-côté, Esteban Ocon.
Non, c'est vrai,
moi, je veux bien croire en Oliver Berman, le craquito, hein, qui est d'ailleurs une star sur les réseaux sociaux, lui aussi. Et, putain, j'ai regardé, il a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, Oliver Berman, pour un jeune pilote de 19
autant
ans.
Autant que toi. Autant que toi, Nico.
Quasiment autant que moi.
Après, il a le bonus britannique. Hein, c'est...
Oui, aussi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que attention, on a souvent tendance à voir les déclats un peu feutrés d'Esteban Ocon, mais c'est quand même quelqu'un qui développe à chaque fois superbement bien les monoplaces et qui, à chaque fois qu'il y a une opportunité, sait la saisir. Donc, mais ça va être très intéressant de voir cette opposition-là. On va terminer quand même, les gars, ce podcast avec le son ultra rafraîchissant d'Isaac Hadjar, toujours avec nos confrères de Canal. Il croque dans tout ce qu'il peut croquer, Isaac. Déterminé comme jamais. Mais vous allez l'écouter plein de fraîcheur.
Chaque fois que je vois Lewis, j'ai envie de lui serrer la pince, quoi. Tu vois, c'est le GOAT. Tu vois, quand tu roules avec Alonso et Hamilton, tu vois, c'est des personnages. C'est comme des personnages de jeux vidéo. Tu vois, c'est pas des mecs réels. Tu les vois depuis que je suis né, je les vois à la télé. Tu vois, pour moi, c'est inaccessible. Tu vois, c'est pas des mecs de la vie de tous les jours. Et au final, 20 ans plus tard, tu te retrouves avec eux en F1. C'est un truc de ouf.
J'adore. Et Nico, je l'ai pas vu, moi, cette interview. C'est chez qui?
Avec Canal.
Avec Canal,
et puis,
d'accord.
Voilà, parce micro que, dans la main, en train de se balader dans le paddock.
Il connaît bien les équipes et ça se ressent, parce que c'est ce qui est vraiment génial, c'est que là, en fait, c'est une interview, mais tu as l'impression qu'en fait, ça a été fait au bar un soir et qu'il te raconte avec. Mais c'est même plus de la fraîcheur, c'est genre, en fait, il a aucun filtre, il y va. Et surtout, voilà.
Ouais, exactement.
Exactement. C'est ça que je voulais dire, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, est-ce que c'est un petit mec qui veut faire le gars qui veut toujours la bonne punchline, mais pas du tout, c'est juste le gars, mais il est nature peinture, comme on dit, tu vois, genre le
mais
gars.
Mais alors vraiment, tu vois, alors
et
pour le coup,
ça
pour
génialissime, quoi, c'est top, j'adore, grosse iPad.
Nous, on bosse sur pas mal de sujets et on discute un peu avec son entourage proche. Et moi, j'ai discuté avec sa maman et elle m'a parlé spontanément de ça. En fait, elle m'a dit que c'était vraiment quelqu'un comme ça dans la vie. Quoi.
Ouais,
quelqu'un
j'en doute pas parce
nature,
que ouais, tu sens que c'est pas fait.
Quand il a quelque chose à dire, ouais, c'est ça. Il le dit, il l'a toujours fait et ça lui a d'ailleurs joué un peu des tours dans la radio. Et lors de cette interview avec Canal, il dit voilà, cette année à la radio, ça va peut-être la même chose. Vous allez voir, tu sens qu'il va un peu se canaliser sur ça, mais il a envie d'être lui-même. Il a envie vraiment de kiffer le moindre moment. Malgré tout, sa maman, elle disait ok, il peut paraître un peu frais comme ça, mais il a fait des choses depuis le début de la saison. Dès qu'il a su qu'il avait signé 10 jours après, il avait pris un appart juste à côté de l'écurie pour bosser tous les jours. Il arrivait à l'usine à 7h, il repartait à 21h30, 22h, avant tout le monde, après tout le monde. Énorme charbonneur, Isaac Hadjar. Et il a vraiment envie de prouver des choses dès ce week-end face à Yuki Tsunoda.
Ouais, puis c'est vrai que ça... Nico, il sait où il veut aller, quoi. Je veux dire, il dit, moi, j'ai perdu le titre de F2, mais enfin, mon objectif, c'était pas la F2, c'était la F1. J'y suis maintenant, j'ai envie de croquer. Et c'est vrai que tu le disais, hein, tu le lançais, c'est une interview pleine de fraîcheur. Il était aujourd'hui aussi chez nos confrères de l'équipe. C'est un gars qui en veut, ça fait du bien de voir ça. Et en plus, qu'il soit français. Donc, on lui souhaite évidemment le meilleur et dès ce week-end, pourquoi pas.
Il va nous régaler. Il va nous régaler toute la saison, là, Isaac Hadjar, avec plein de sorties. Les gars, on se donne rendez-vous lundi pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison, parce que ça y est, le paddock est reparti. Maintenant, formule Grand Prix. Je vous rappelle, warm-up le jeudi, débrief le lundi, sur le circuit de l'Albert Park. Faut mettre le réveil. La course, à quelle heure? 6h du mat? 5h du mat? Dimanche?
5h.
Et là, les séances d'essai, la première séance d'essai, tu dirais. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, je vais veiller, moi.
Heureusement, on est parti pour des nuits blanches, messieurs. Là, c'est ça qui est bon.
Heureusement, Dieu a inventé le replay, les amis. Et moi, ça va être réveil, Twitter.
Ah là, mais t'as pas de palage. Mais toi, t'as vraiment la vie d'un mec de 45 piges alors que t'en as 25, quoi.
Non, mais c'est terrible. On rigole pas avec le sommeil un samedi soir. Tu vois, la grâce mat du dimanche.
Moi, j'ai pas les moyens. Alors, messieurs, moi, j'ai Canal, mais j'ai pas le replay. Donc, ce sera en direct.
Ah ouais, c'est comme ça. Moi j'ai des enfants donc ça sera en replay aussi parce que je m'endors à 22h, c'est terminé ça, la belle vie, terminé donc, les gars.
Et ça c'est pas du tout une personne de 45 ans par hasard.
Non, pas du tout. Rendez-vous lundi les gars avec notre Gotanou, Jean-Luc Croix sera avec
Merci
nous pour débriefer ce Grand Prix d'Australie. Profitez du week-end de F1 sur RMC, bye bye.
Salut.
Le paddock RMC.